C'est le fardeau qui est sur mon cœur, mais là, le chemin pour y arriver, ben, il va falloir commencer par faire le bilan. Il va falloir commencer par faire le point. Débriefer. Qu'est-ce que c'est, débriefer? Je ne sais pas si vous avez déjà vu parfois à la fin d'un culte, les groupes de louanges qui font un petit attroupement, là, ils se mettent ensemble, ils font un cercle et puis ils discutent. Ils débriefent. Ils font un bilan. Ils disent, ben, qu'est-ce qui s'est bien passé? Comment est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et du coup, comment est-ce qu'on fera la prochaine fois? Et ça, c'est ce qui se passe aussi sur le lieu de travail, en milieu professionnel. À l'hôpital, par exemple, on travaille avec des processus. Quand il y a une réanimation, il y a tout un processus. D'abord, il faut faire un certain numéro de téléphone, un appel d'urgence. Et puis, il y a quelqu'un qui va vite apporter le chariot d'urgence, et puis quelqu'un qui commence le massage cardiaque, quelqu'un qui ventile, quelqu'un qui prépare les médicaments, etc. L'équipe d'anesthésiste qui arrive. C'est le gros boom. Mais une fois que tout est fini, on se retrouve et on débriefe, on fait le bilan. Comment ça s'est passé? Toutes les étapes. Et quel est le résultat? Et en fonction du résultat, on décide, ok, notre processus, il fonctionne, on va continuer comme ça. Ou alors non, là il y avait une lacune, il faut qu'on fasse autrement. Faire le bilan. C'est pas tellement inné pour nous dans la vie de tous les jours de faire le bilan. C'est sur le lieu de travail, c'est à l'église, avec le conseil aussi on fait un bilan. Mais dans la vie, dans notre train-train quotidien, c'est pas forcément inné. Et parfois c'est Dieu lui-même qui nous arrête. Des fois, c'est lui qui ferme le robinet pour qu'on s'arrête, puis qu'on se dise, oh là, que se passe-t-il? Mon mari dirait, qu'est-ce qu'il y a, se passe-t-il? C'est sa phrase. Eh bien, il s'est passé la même chose dans la parole à l'époque du prophète Agée. Il y a une phrase qui revient deux fois dans un seul chapitre. Considérez attentivement vos voies. Et suivant les traductions que vous avez plus récentes, réfléchissez attentivement à vos attitudes. Ça revient deux fois à un moment stratégique. Et ce mot considérer, il revient encore dans le livre. Et si vous le regardez, sa signification en hébreu, en fait, ça veut dire plein de choses, mais pas considérer. Mais ça veut surtout dire placer, mettre, fixer. Seulement, c'est tellement difficile cette phrase à la traduire qu'en français, on a traduit « considérez attentivement vos voies » et je pense que c'est ce qui sonne le plus juste. Mais en fait, la vraie traduction, c'est « fixez votre cœur sur vos chemins ». Placez votre cœur sur vos chemins. Autrement dit, analysez vos voies, analysez vos chemins, analysez vos processus, votre façon de fonctionner. Et votre cœur, là-dedans, il est où? Il est comment? Où est Dieu dans tout ça? Alors, nous allons lire un texte qui est très connu. Je me suis demandé pourquoi le Seigneur me mettait ce texte à cœur. Je me suis dit, mais peut-être c'est même pas le Seigneur, peut-être c'est moi. Mais pourtant, je crois qu'on est en plein dans le mille. Ce texte, s'il commence par des réprimandes, c'est surtout un encouragement. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est l'encouragement. Mais des fois, ça passe par une fermeture de robinet. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, « Le temps n'est pas venu !» Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Placez votre cœur sur vos chemins. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait une subtilité au tout début. C'est donc Dieu qui parle au travers de la bouche du prophète. Et Dieu qui dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir ma maison. Ce peuple. Il ne dit pas mon peuple. Pourtant, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Juda. C'est comme s'il y avait une rupture de relation. Et en fait, il y a une rupture de relation. Et c'est pour ça qu'il dit, considérez vos voies, arrêtez, faites le point. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le contexte? On est en 520 avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu, Juda, a été déporté en exil à Babylone à cause de sa rupture d'alliance, à cause de sa désobéissance. Et voilà qu'au bout d'un certain nombre d'années, Cyrus, roi de Perse, qui a renversé Babylone, autorise le peuple juif à revenir sur ses terres, à rebâtir la muraille et à rebâtir le temple de Jérusalem. Et vous pouvez lire cette histoire dans Esdras et Néhémie. Ça fait 16 ans que le peuple est de retour et qu'ils ont recommencé à bâtir le temple. Ils ont commencé par reconstruire l'autel pour les sacrifices. Ils ont réétabli les sacrificateurs, les lévites, ils ont mis les fondations du temple pour pouvoir recommencer le culte. Ça fait 16 ans, mais ça fait 15 ans que le culte est à l'abandon. Les travaux se sont arrêtés. Alors c'est vrai, il y a eu de l'opposition. Mais si vous voulez lire cette histoire avec l'opposition, allez dans Esdras et Néhémie. Agé, il n'est pas le point sur l'opposition. Agé, il met le point sur autre chose. Agé, il met le point sur la négligence. La négligence des choses de Dieu de la part du peuple hébreu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temple, c'est le signe visible de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc le temple, c'est le signe visible de la relation de Dieu avec son peuple. Donc si le temple est à l'abandon, on a un problème d'alliance. On a un problème de relation. C'est extrêmement grave. C'est comme si le peuple s'est mis à côté de l'alliance. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, voilà pourquoi la question. Le peuple se dit, c'est pas qu'on va mal construire ce temple. Mais pas aujourd'hui. Je sais pas quand. Vous savez, c'est comme quand vous avez un enfant, un petit enfant, tu dis, tu viens maintenant? Ouais, j'arrive. Allez, viens. Ouais, je viens. Non mais tu viens maintenant, je viens, ça peut durer, il faut se fâcher pour qu'il vienne. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, c'est pas le temps maintenant, c'est pas qu'on veut pas, mais une fois qui pourrait être jamais, je sais pas, une fois. Alors il y a une question stratégique, eux ils disent c'est pas le temps, et le prophète il dit est-ce le temps? Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées? C'est quoi le lambris? Le lambris, c'est du bois. C'est du bois pour faire joli. C'est des enjolivures. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur de la maison. Ce peuple a préféré passer du temps à lambrisser ses maisons, à prendre soin de ses maisons, à mettre vraiment de l'importance sur l'esthétisme. Mais il y a une subtilité qu'il faut bien comprendre. C'est pas écrit dans le texte, mais il faut le savoir. À l'époque, le commun des mortels, la classe moyenne, ou le bas peuple, ou les pauvres, personne n'avait une maison lambrissée. Ceux qui avaient des maisons lambrissées, c'était les rois. Et c'était les hauts dignitaires. Autrement dit, une maison lambrissée, c'est une maison de luxe. Ça veut dire que le peuple ne se satisfaisait pas de ce qu'il avait, il voulait le luxe. Il avait d'autres priorités. Il avait comme priorité l'apparence, moi, ma personne, mes besoins, ce que j'ai envie. Et surtout, que dira-t-on de moi si j'ai une belle maison? Vous comprenez? Voilà la problématique. Et c'est pour ça qu'il y a cette question stratégique. Et considérez attentivement vos voix. C'est une aide à la réflexion. C'est une aide de dire, mais arrêtez-vous, stop. Considérez, fixez vos cœurs sur vos chemins, regardez où vous en êtes. D'ailleurs, vraiment le bilan. Et le vrai bilan, allez un peu plus loin. Regardez, vous semez beaucoup, mais vous récoltez pratiquement rien. Alors vous mangez, mais ça ne vous nourrit pas. Vous buvez, ça ne vous désaltère pas. Dans le texte hébreu, on peut même comprendre que vous buvez et vous n'êtes même pas enivré. Voilà ce que ça veut dire. C'est extrêmement grave. Vous travaillez. Et votre salaire est insuffisant. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Regardez un peu notre société aujourd'hui. Regardez les intérêts de notre société. Moi d'abord. Ma personne. Recherche de bien-être. Regardez les spas. Combien de personnes ont un jacuzzi à la maison? Je ne sais pas, mais de plus en plus. Maintenant, on n'osera plus les utiliser parce qu'on n'ose plus utiliser l'eau chaude. Et puis, les spas, les centres de soins, les nouvelles thérapies, les médecines parallèles, les spécialistes de ci, de ci, de ci, de ça, juste pour pouvoir répondre à tous mes maux, à toutes mes imperfections. Le culte du corps, les centres de fitness. Il faut perdre du poids, mais pas trop, mais un petit peu, mais quand même. Et puis, il faut manger sainement. Ben, ça, c'est une bonne chose. Mais quand même, jusqu'où est-ce qu'on va? Il faut s'entretenir. Et le travail, il faut mettre un coup. Il faut du rendement. Il faut du profit. Il faut faire un grand chiffre d'affaires. Activisme, technologie. La technologie va nous sauver. On va essayer d'atteindre une performance qu'on n'a encore jamais atteinte. Et les réseaux sociaux, combien j'aurai de likes, combien j'ai d'amis, combien est-ce que comment est-ce qu'on me voit quand je suis sur les réseaux sociaux? Ça, c'est des maisons lambrissées. Et pour ça, on peut être un vis-à-vis pour notre société. On peut dire, mais regarde, tu dis que tu n'as pas de Dieu. Tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Mais alors, ça veut dire que tu ne crois pas dans le bien et le mal? Ça veut dire qu'en fait, tout va bien si on n'a pas besoin de Dieu. Mais alors, pourquoi tu n'es jamais satisfait? Pourquoi tu dois comme ça prendre soin de ton corps? Pourquoi tu travailles, et en fait, tu croules sous les impôts, sous les assurances maladies, sous... Est-ce que tu es vraiment comblé? Est-ce que ton âme est restaurée? Est-ce que toute ta personne est restaurée? Regarde, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Mais en fait, tu en as plein, toi, des dieux. Tu as encore plus de foi que moi. Tu es encore plus religieux que moi. Non, mais essayez d'imaginer. Ça peut donner un peu de la matière de dire aux gens, mais regarde ta situation. Fixe ton cœur sur ton chemin. Est-ce que vraiment ça t'amène à une pleine satisfaction où tu sais où tu vas? Il peut t'arriver n'importe quoi, tu n'as pas peur d'amour. Parce que tu sais où tu vas. Parce que tu collabores avec ce Dieu vivant qui est le créateur des cieux et de la terre. Si on regarde notre monde, il y a toujours plus de malades, malades psychiques, malades physiques, malades de toutes sortes. Il y a de plus en plus d'inflation, diminution du pouvoir d'achat, difficultés sociales, drames, mœurs perverties, dérèglements climatiques. Voilà le constat. Et à nous aussi. Nous aussi, il nous arrive d'avoir le même constat pour notre propre vie. Alors ça vaut la peine de fixer mon cœur sur mon chemin. Est-ce que mes entreprises réussissent? Est-ce que l'énergie que je mets dans telle ou telle activité porte du fruit? Est-ce que ça vaut la peine de mettre cette énergie-là? Est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce que l'argent que je dépense est à la gloire de Dieu? Est-ce que l'argent que je dépense, c'est pour quelque chose de constructif? Est-ce que mes priorités sont au bon endroit? Est-ce que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, ça fait avancer le royaume de Dieu? C'est quand même un peu ça, notre mandat. C'est pas juste d'avoir une belle maison et d'aller bien. C'est pas juste un ticket pour le ciel. C'est pas juste le salut. Être chrétien, mes amis, c'est pas juste être sauvé. Hein. Ça, c'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est travailler au royaume de Dieu. C'est refléter Jésus. Ce peuple dit, c'est pas le temps. Il n'y a plus de relation, parce qu'il n'y a plus de foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu quand on n'a pas la foi. Hébreux 11, 6, Romains 8, 8. Impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Mais Mais pour avoir la foi, il faut une relation. Il faut être sous l'alliance. Alors il est temps de faire le point, de faire le bilan. Continuons. Ainsi, verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Encore une fois, placez votre cœur sur votre chemin. Arrêtez-vous, faites le bilan, débriefez. Mais montez à la montagne. Pourquoi monter à la montagne? Parce qu'il y a des arbres. Parce qu'il y a des arbres qu'il faut les couper pour faire du bois et qu'il faut descendre ce bois de la montagne pour faire le temple. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. Montez, c'est pas monte. Montez à la montagne. Allez-y ensemble. Vous avez besoin de la communauté pour construire le temple. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Il y a un problème d'individualisme. Voilà ce qui est pointé du doigt. De l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et non, le royaume de Dieu, c'est un royaume de sacrificateurs, c'est une famille, c'est une communauté. Ce ne sont pas des individus isolés. Jésus, nous sommes le corps de Christ, mais nous ne sommes pas chacun le corps de Christ. Christ n'a qu'un corps. Nous sommes chacun participants à ce corps de Christ. Il y a nécessité de sortir de l'individualisme et entrer dans une démarche communautaire. Sortir la tête de nos propres préoccupations. Arrêter de regarder tout ce qui ne va pas dans notre personne. De toute façon, robinet de l'arrêter. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand le robinet est arrêté? Il faut relever la tête. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ce robinet, il est tellement haut, il est tellement grand, que moi, je ne peux pas aller ouvrir ce robinet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fixez notre cœur sur nos chemins. Voilà ce que dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. On peut aussi traduire, on s'est tourné vers l'abondance. On s'est tourné vers l'abondance. Et vous avez eu peu. L'intérêt, c'était l'abondance. L'intérêt, c'était le profit. L'intérêt, c'était tout ramasser pour moi et le ramener à la maison. Ça, c'était la priorité. Négligence du temple, priorité pour ma propre personne. Et chacun s'empresse ou court pour sa maison, pour sa propre maison. C'est vraiment un problème d'individualisme qui est tellement fort dans notre société actuelle. C'est vraiment ça qui ressort. Alors Dieu dit, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Parce que vous avez négligé ma maison. Parce que vous êtes tous chacun pour vous. C'est moi qui l'ai fait. Voilà ce que dit Dieu. C'est moi. C'est moi. J'ai soufflé. J'ai détruit tout ce que vous avez fait. J'ai pas été d'accord que ça marche. Il dit, c'est pourquoi les cieux au-dessus de vous ont refusé la rosée. Mais la rosée, elle était essentielle. Essentielle à l'agriculture. Dans un pays où il pleut pas souvent, la rosée, s'il n'y a pas de rosée, il n'y a pas d'agriculture, ça ne peut pas tenir. Ça fait partie de l'irrigation, la rosée. La terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, le blé, le mou, l'huile. Trois valeurs sûres. Trois denrées de base. Le blé, c'est le pain, bien sûr. Le mou, c'est le vin, c'est le jus de raisin, c'est la vigne. Les cèpes, ça sert au bois de chauffe, par exemple. Le raisin, ça sert pour la nourriture. Il y a du sucre, il y a des sels minéraux, il y a beaucoup de choses dans le raisin. Ça sert pour le vin, pour la boisson. C'est un signe d'alliance. Melchisedec avait apporté du pain et du vin. mes robinets. Et l'huile. L'huile, ça sert à la nourriture. L'huile, ça sert aux soins corporels. Ça sert pour les traitements. Ça sert pour l'onction, donc les choses de Dieu. Ça sert pour les lampes. Il n'y a pas d'électricité à l'époque. Il y a besoin d'huile pour des tas de choses. Et toutes ces denrées, elles servent aussi pour le commerce. Si on enlève ces denrées, c'est la disette, c'est la misère. Et c'est dans cet état que se retrouve le peuple. Le peuple est dans la misère, mais ils ont des maisons lambrissées. Ils roulent en grosse BMW, en leasing, mais ils mangent des pâtes tous les jours, un petit peu matin et soir, mais au moins ils ont bonne figure. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu souffle sur le blé, le mou, l'huile? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Agé utilise ces trois termes. C'est parce qu'il fait référence au Deutéronome. Il fait référence encore une fois à l'Alliance. Dans Deutéronome 7, il est question des bénédictions en lien avec l'Alliance. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'Alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile. Deutéronome 7, verset 12-13. Mais, Deutéronome 28, c'est une malédiction si le peuple transgresse l'Alliance. Le ciel sur ta tête, verset 23, sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Sécheresse. Et verset 38-40, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne te moindras pas d'huile, car tes olives tomberont. En utilisant ces trois termes, Agé est en train de leur dire, vous êtes en plein dans la malédiction à cause de votre désobéissance par rapport à l'Alliance. Et ça, le peuple, il connaît la parole. Le peuple, il sait très bien. Donc, il comprend ce que ça veut dire. Et il comprend que c'est grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui, pour nous ? Romains 12, 1. Ça vous parle, Romains 12, 1 ? Non, 2, pardon. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à notre société et à ce qu'elle vit. La société qui demande qu'on change de mode tout le temps. Vous savez quoi, le plus simple, enfin, c'est pas si simple, mais ayez votre propre mode. Parce qu'elle peut durer longtemps. Après, le problème, c'est que quand notre propre mode n'existe pas dans les magasins, puis que les habits commencent à être usés, enfin, moi, c'est mon problème, c'est compliqué. Mais la mode aujourd'hui, ça change pas. Avant, ça changeait toutes les années, et après, tous les 6 mois, été, hiver. Ensuite, toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Maintenant, ça change toutes les 2 semaines. Il faut changer tout le temps. Donc, les habits coûtent pas cher pour changer plus vite. Mais en faisant beaucoup d'habits, on pollue. Et les gens qui font ces habits, vous croyez qu'ils sont payés comment? Et nous, on est esclaves de la mode. Eux sont esclaves du travail et de l'autre mode de vie. Et nous sommes esclaves de la mode. Plutôt que de ne pas se conformer au siècle présent, mais être renouvelé dans notre intelligence et faire ce que Dieu nous demande. Sortir de l'individualisme, sortir de nos problèmes, placer notre cœur sur nos chemins, faire le bilan. Et là, la construction du temple, C'est une question communautaire. Le temple, ça peut être l'église, bien sûr. Bien sûr. Quel temps est-ce que vous consacrez aux autres? Quelle est la place de l'église? Quelle est la place de la communauté pour vous? Quelle est la place du royaume de Dieu? Quelle est la place de Dieu dans vos décisions, dans vos projets, dans votre façon de fonctionner, dans votre agenda? Combien de fois on veut se poser nos explications à nous-mêmes, poser ses propres diagnostics, ses propres traitements, ses propres solutions, ses propres. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et s'il dit quelque chose, c'est pour agir. Comment est-ce qu'il agit là-dedans? Et si on n'a pas la réponse, c'est que peut-être qu'on n'est pas vraiment au bon endroit. Peut-être qu'il faut un peu lâcher. Peut-être que le robinet a été éteint. Et puis qu'il faut retourner à Dieu. Alors c'est vrai, pour sortir de l'individualisme et s'occuper de la communauté, ça commence quand même par soi-même. Ça commence quand même par quelque chose d'individuel et de personnel. Ça commence par une consécration. Mais une consécration en esprit et en vérité. En vérité. Ça veut dire passer du temps avec le Seigneur. Il n'y a pas besoin de se dire, bon, depuis demain, je passe 2 heures avec Dieu. Si vous l'avez jamais fait, vous n'y arriverez pas. Mais ça veut dire chaque jour. Chaque jour, tu fixes un moment. Je commence par 5 minutes. 5 minutes où j'écoute Dieu. Où je m'adresse à lui, où je m'adresse au Saint-Esprit, où je loue le Seigneur, juste commencer par le louer. Et je verrai que les 5 minutes seront vite passées. Et puis ensuite, je vais dire, non, ça ne suffit pas, un quart d'heure. Et qu'est-ce que je fais pendant ce quart d'heure? Je commence par louer le Seigneur. Et puis si je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas ok en moi, je me repens, je demande pardon. Puis après, je l'invite, ou je prends sa parole pour qu'il me parle. Et un quart d'heure, ça ne va pas suffire. Et ensuite, tout au long de l'année, tout à coup on s'arrête. Saint-Esprit, c'est vrai, t'es là. Merci pour ta présence. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je dois répondre à cette personne? Comment tu veux résoudre cette situation? Et regardez, ne regardez pas seulement en vous-même, mais regardez à l'extérieur. Regardez les circonstances qui commencent à gentiment se placer en votre faveur. Puis vous allez vous dire, ah mais tiens, c'est peut-être comme ça que Dieu répond. Je vais essayer d'aller dans cette direction, puis je verrai si j'ai reconnu sa voix ou pas. Ça s'entraîne. Il est nécessaire de se consacrer. Et se consacrer, ça doit se voir, ça doit transparaître dans la communauté. Et comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, je pourrais repartir dans une nouvelle prédication, je ne vais pas le faire. Mais juste en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la vérité? Eh bien, déjà, pas de dissimulation. Vous arrivez dans l'église. Dans l'église, ça peut être ici le dimanche matin pendant un culte, mais ça peut être dans la communauté, à l'extérieur, n'importe où, devant vos frères et sœurs. Pas de dissimulation, vous ne cachez rien. Ça ne veut pas dire que vous devez tout dire. Il y a des choses qui sont de la sphère de l'intimité, de la sphère privée. Il faut avoir de la sagesse, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout à sa copine, on est d'accord. Mais s'il y a quelque chose que tu dissimules, s'il y a quelque chose que tu vis dans le domaine privé et que tu n'en parles pas, est-ce que c'est pour une bonne raison? Parce que c'est simplement de la sphère privée. Ou est-ce que tu n'aimerais pas que les gens sachent? Parce que tu sais qu'il y a un truc qui ne joue pas. Marcher dans la vérité, c'est ne pas dissimuler. Marcher dans la vérité, c'est demander pardon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être maladroit ou maladroite, d'avoir blessé quelqu'un et d'avoir dû lui demander pardon?
Ah oh oui.
Ah, il y en a. Ouf, je ne suis pas toute seule. Ça fait un truc, hein. Ça fait quelque chose. C'est pas marrant, hein. C'est pas des choses qu'on aime. Moi, j'aime pas. Mais c'est libérateur.
Ouais.
Quand je vais voir quelqu'un, je dis, écoute, j'ai dit ça, j'ai fait ça, et c'était pas juste, et je te demande pardon. C'est un mauvais moment à passer, mais après, qu'est-ce que ça va mieux? Ça, c'est marcher dans la vérité. Si quelqu'un t'a fait du tort, tu dois lui pardonner. C'est marcher dans la vérité. Et pardonner, c'est quoi? C'est dire, ok Seigneur, j'arrête avec ma propre justice. et je te laisse faire ta justice. Je te remets cette personne à ta justice. J'appelle ta miséricorde sur lui ou sur elle, j'appelle ta grâce, parce que je crains pour sa vie, je crains ton jugement, mais je sais que je suis autant fautive à une autre échelle peut-être, ou peut-être dans un autre domaine, mais moi je mérite aussi ton jugement. Alors j'arrête ma propre justice, je te remets cette personne, je m'en libère et je la libère, j'arrête de la critiquer, j'arrête de dire tout le mal qu'elle m'a fait, j'arrête de parler de tout ça, j'arrête de nourrir cette chose-là, je coupe ses liens et je la remets à ta propre justice, je lui pardonne avec ton aide, avec ta puissance. Ça, c'est marcher dans la vérité, parce que Jésus est vérité. Alors, si tu veux marcher dans la vérité, tu marches comme Jésus a marché. Tu fais ce qu'il a dit qu'il fallait faire, tu ne fais pas ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est marcher dans la vérité. C'est un gros programme. Marcher dans la vérité, c'est aussi servir, se soucier des autres. C'est prendre son téléphone de temps en temps pour demander comment tu vas. C'est d'écrire un mot. C'est de servir la communauté et de ne pas être centré sur soi. Et comme ça, nous serons des témoins dans notre société. Si la société voit que je ne m'occupe pas que de ma personne, que j'ai des gros problèmes, je traverse des grosses galères, mais je suis bien. Et Dieu pourvoit mes besoins. Et j'ai une famille, une communauté avec moi. Et je ne suis pas seule. Et je vois bien que je dois aussi payer mon électricité plus chère, mon gaz plus cher, la chaleur plus chère, que je dois aussi éteindre la lumière dans toutes les pièces et puis aller à la lampe de poche avec le... Vous savez maintenant, il faut acheter des lampes de poche avec le dynamo, là. Le dynamo, je ne sais plus comment. Parce que peut-être on n'aura même plus de pile, on ne sait pas. Mais voilà, moi aussi je suis impactée par ça. Moi aussi j'ai mes factures qui augmentent. Moi aussi je suis atteinte dans ma santé. Moi aussi. Mais... mon Dieu est plus grand. Et c'est lui qui gère le robinet. Heureusement, il y a un heureux épilogue pour ce premier chapitre. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple. Ce qui est important de comprendre dès le début de ce texte, c'est que Zorobabel, c'est l'autorité civile. Josué, c'est l'autorité spirituelle, religieuse, et tout le peuple. Et à tout le monde dans le même paquet. Et là en particulier, et c'est répété, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Tout le peuple, chacun, quel que soit son niveau, sa catégorie, peu importe, tout le monde dans le même paquet reçut, paf, la parole de Dieu qui vient du ciel, du trône de Dieu et qui tombe dans leur cœur. La parole de Dieu, la parole vivante. Jésus est la parole vivante. Jésus n'a pas encore été incarné à ce moment-là. Jésus n'est pas encore venu. Mais la parole, elle est vivante. La parole de Dieu vient dans leur cœur. Tous l'entendirent. Et qu'est-ce qui se passe? Tous sont dans la crainte. Ils sont tous saisis de crainte devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire avoir peur. La crainte de l'Éternel, c'est une sainte révérence devant Dieu. C'est le respect de la sainteté de Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. C'est l'adoration à Dieu. Enfin. Parce que la reconstruction du temple, ce n'est pas une question de bâtiment, mes amis. C'est une question d'adoration. Alors le peuple entre dans une profonde repentance. Il change complètement. Et l'Éternel répond tout de suite, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et il ne dit pas « Je serai avec vous », il dit « Je suis avec vous ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il offre son salut, qu'il offre son secours, sa protection, sa provision, son soutien. Il reprend tout son peuple dans l'Alliance. Et ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Matthieu 28, 20. Au moment où Jésus va repartir, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il va repartir vers son Père. Dernier verset, dernière parole dans Matthieu, il dit, je suis avec vous
tous les jours.
Je suis avec vous tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 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 Jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où vous pouvez dire Jésus n'est pas avec moi. Parce que vous ne pouvez pas le faire menteur. Tous les jours. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, et fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Il s'est passé juste 2-3 semaines entre la parole d'Agé et quand la reconstruction du temple recommence. Le temps de s'organiser, le temps de monter à la montagne, de couper des arbres, de faire des planches, des poutres, de les redescendre et de commencer. C'est immédiat. Autant Dieu répond immédiatement à la repentance du peuple qui a reçu sa parole, autant le peuple se met immédiatement à l'œuvre parce qu'il est encouragé. Alors, c'est un encouragement. Oui, il y a une espèce de réprimande là-dedans. Je pense que ça nous questionne tous, mais moi, où j'en suis? Et je pense que c'est nécessaire. Mais ça nous donne aussi des réponses à donner à notre société. Quand vous êtes au travail, ou je ne sais pas où, à l'extérieur, dans votre sphère d'influence, vous pouvez aussi utiliser ces textes pour dire, oui, mais ok, tu fais ça pour répondre à tes besoins. Mais jusqu'où est-ce que tu as répondu? Est-ce que toute ton âme, toute ta personne est complètement restaurée une fois pour toutes? Vous avez des éléments. Mais pour nous, c'est un encouragement. Pour nous, c'est un encouragement parce que ça fait un moment qu'on travaille à rebâtir le temple. Ce texte, il ne vient pas ici pour dire « ça ne va pas du tout ». Non, je pense qu'individuellement, on a tous des choses à régler, des choses à revoir, on peut tous aller plus loin. Et pour ça, il faut le prendre comme une exhortation, un encouragement de la part du Seigneur, qui nous dit, mais tu sais, c'est peut-être moi qui ai un peu fermé le robinet, parce que je veux que tu reviennes à moi. Et si c'est comme ça, lui, ce qu'il attend, c'est de pouvoir ouvrir le robinet. Mais il faut que nous, on ait compris, et qu'on change notre manière de faire. Mais par contre, c'est un encouragement pour nous. Ça fait des semaines et des mois qu'on retravaille, qu'on travaille tous ensemble pour reconstruire le temple. Et ça fait des semaines qu'on reçoit des encouragements. Tous les visiteurs qui sont venus ces dernières semaines nous ont encouragés. Nous avons reçu des prophéties, nous avons reçu des encouragements. Je crois que la semaine passée, c'était le clou. C'était le clou comme Marc a été tellement touché et qu'il pleurait. Il venait nous parler des chrétiens persécutés, et c'est lui qui pleurait parce qu'il a trouvé la présence de Dieu ici. Alors s'il y a la présence de Dieu ici, moi je veux vous dire, c'est pas à cause du pasteur. Parce que le pasteur pourrait rien faire sans son Seigneur. Et le pasteur pourrait rien faire sans l'équipe de conseil. Et l'équipe de conseil pourrait rien faire sans toute la communauté. Moi je veux vous dire, je suis extrêmement reconnaissante pour l'équipe de conseil. Et sans eux, je ne sais pas quel visage aurait l'Église, je ne sais pas s'il y aurait encore cette Église, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils ont tous un poste stratégique, et je sais que tous y sont consacrés. Et c'est un immense sujet de reconnaissance. Et on doit faire attention de ne pas s'enorgueillir, de ne pas attirer l'attention à nous, parce que sinon on va se tromper. Mais je sais que même avec cette super équipe de conseil, on ne peut pas aller très loin s'il n'y a pas de communauté. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas aller très loin si on n'a pas un groupe de louanges. Et ce groupe de louanges que vous voyez là tous les dimanches matins, ils persévèrent. Il y en a, c'est des vieux de la vieille, ils sont là depuis plus de 20 ans. Et ils persévèrent. Et bien moi, je suis reconnaissante parce que le groupe de louanges persévère. Mais Leur service ne sert à rien s'il n'y a pas une assemblée qui loue. Et j'en parlais avec quelques-uns ces derniers temps, même l'assemblée est tellement mature dans sa louange. L'assemblée, elle est dans les starting blocks, elle veut louer, que les prises de parole d'un groupe de louange ne sont même pas nécessaires. Et là aussi, il y a un truc où il faut faire attention. Toute prise de parole attire l'attention à soi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je parle ou pas? Est-ce que ma prière, c'est une instrumentalisation pour informer l'Église? Ou alors, est-ce que c'est mon cœur qui bouillonne, ça vient de Dieu? C'est des choses qu'on apprend tous. Pour la présidence, c'est aussi ce que je leur dis. Essayez de vous faire oublier. Vous êtes obligés de causer. Vous ne pouvez pas présider sans parler. Mais faites juste le strict nécessaire pour que ce ne soit pas votre personne qui soit devant, mais que ce soit Dieu. Et c'est la même chose aux ateliers de la Bible. Et c'est la même chose pour l'équipe qui distribue la Sainte-Seine. C'est la même chose pour toute l'Assemblée. Tout le monde est mature. Tout le monde est mature. On est ensemble, les amis. On est ensemble. Et c'est pour ça que l'Église avance, que le temple est en train d'être reconstruit. Mais on n'a pas fini. Alors c'est une exhortation, c'est un encouragement pour nous dire on est sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, mais regardez là au milieu. On n'a encore pas fini. On n'a encore pas fini. Il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore plein de personnes qui doivent être sauvées. Il y a plein de vies qui doivent être restaurées. Et nous tous, autant que nous sommes, il y a plein de choses qu'on doit comprendre. On n'a pas tout compris. On n'a pas tout compris. Alors soyons encouragés. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données en plus. S'il y a un mot d'ordre, dans ma conclusion, c'est ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Faites-en une priorité. Si vous avez été touché par ce message, choisissez de chercher d'abord le royaume de Dieu dans tous les aspects de votre vie et sa justice à lui. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ces enseignements. Merci. Seigneur, merci pour ceux qui nous ont précédés. Comment est-ce qu'on aurait réagi si on avait été à leur place? Et pourtant, Seigneur, d'une certaine manière, nous sommes aussi à leur place. On est en train de nous fermer le robinet de plein de manières différentes. Comment allons-nous gérer? Seigneur, merci parce que nous savons que quoi qu'il arrive, si nous sommes pleinement sous ton alliance, sous ton regard, dans ta pleine volonté, si nous marchons dans la vérité, même si les temps sont durs, nous les traverserons avec toi. Même si on porte atteinte à notre vie, même si nous aurons faim, nous traverserons ces temps avec toi. Mais moi je te demande aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, de convaincre nos cœurs pour que tous nous marchions dans la vérité, pour que tous nous soyons capables de fixer notre cœur sur notre chemin, de nous repentir si c'est nécessaire, de prendre un nouveau départ, de craindre ton nom, de t'adorer, que nos vies soient une adoration, et qu'ensemble on puisse rebâtir ce temple, rebâtir cette communauté pour qu'elle soit toujours plus large, qu'il y ait toujours plus de place pour accueillir les nouveaux, qu'il y ait toujours plus de place dans nos cœurs, qu'il y ait toujours plus de place pour accueillir, pour aimer, pour donner, pour soutenir, pour porter, pour annoncer ta parole, pour donner des bons fondements, pour être une lumière dans la ville, une lumière dans l'obscurité. Merci Seigneur.